dès que le conflit ne s'étende, a ajouté l'Élysée.
Bienvenue sur votre émission hebdomadaire sur VOA Afrique. Une vingtaine de minutes pour passer au peigne fin l'actu du sport de la semaine. Élisée Mpati en direct avec vous et pour m'accompagner, comme d'habitude, Lawal Din Kosuru. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir auditeurs de VOA Afrique.
De Dakar au Sénégal, Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
En direct de Casablanca au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis Valdo Simon Nyamba est à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de nous retrouver une fois de plus.
Ce soir, nous allons parler de la nouvelle compétition des clubs, la Ligue Basketball Africa, qui a démarré ce week-end à Kigali, la capitale rwandaise, qui a accueilli le comité exécutif de la Confédération africaine de football pour établir les bases du travail de la mandature de son président Patrice Motsepe. Et puis, la RD Congo tient enfin son sélectionneur. Il s'agit de l'Argentin Hector Cooper. Bienvenue sur Sporama et bonsoir à tous. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni à Kigali au Rwanda sous la présidence de Patrice Motsepe. Plusieurs décisions ont été prises à l'issue de cette réunion et entre autres Valdo, la mise en œuvre du championnat panafricain de football scolaire qui verra jour en RDC.
Bien entendu, Élisée, la RDC est heureuse d'être la locomotive de ce championnat africain interscolaire qui ne pouvait souffrir d'aucune contestation de la part de la Confédération africaine de football de Motsepe, après que la FIFA ait décidé en accord avec le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, reste maintenant sa matérialisation qui ne devait en principe pas faire face aux récurrents problèmes d'infrastructures sportives. Quand on sait que déjà pour les éliminateurs de la Coupe du Monde, par exemple, la CAF n'a validé aucun stade dans certains pays du continent, la RDC n'en compte qu'un. Il faudra définir également les formats et surtout les calendriers qui devraient être adaptés au calendrier scolaire dans différents pays africains. Si sa mise en application réussit, cette compétition pourra être bien évidemment une véritable vitrine du vivier du football africain à l'état brut.
Amédine, un don de 10 millions de dollars US du président de la CAF pour le financement de ce championnat interscolaire, c'est énorme comme investissement.
Tout à fait, Élisée, le nouveau patron de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, a frappé un grand coup en faisant un don de 10 millions de dollars. C'est presque 5 milliards de francs CFA pour le financement de l'organisation de championnat panafricain interscolaire. Cet investissement est énorme, Élisée, mais je pense que c'est une très bonne chose car le fait d'organiser une compétition interscolaire est une excellente initiative car beaucoup de sportifs s'étaient révélés lors de ces genres de compétitions. Je me rappelle qu'au Sénégal, il y avait des championnats interscolaires qu'on appelait des championnats IACI et qui révélaient beaucoup de grands jours, mais ces championnats n'existent plus faute de moyens au Sénégal, Élisée. Et puis ça c'est qu'avec l'arrivée de cette compétition, Patrick Motsepe va réussir quelque chose de grand comme l'avait fait Issa Aïtou qui avait initié le CHAN. Je pense que vraiment cette initiative est à encourager. Maintenant, on va attendre de voir ce que cela va donner la compétition. Est-ce que cela va se poursuivre? Est-ce que cela va être bien géré par les responsables du football africain? En tout cas, c'est une bonne initiative. Élisée.
Lawal, l'autre bonne nouvelle est pour le Bénin. Le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a été retenu pour abriter la finale de la Coupe de la CAF de cette saison.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour le Bénin. Pourra-t-on dire, parce que choisir ce stade mythique pour le pays,
c'est dans les années, au début des années 80.
Voilà, ce stade est mythique pour tous les grands rendez-vous. Pour les classicos, par exemple, de certains
Dragons
de l'Atlantique et tout le reste. Maintenant, la question que moi je me pose personnellement en tant que chroniqueur sportif, c'est de savoir si le stade sera prêt, parce qu'il est en pleine rénovation, s'il sera prêt pour l'échéance. C'est aux autorités du ministère des Sports de nous dire ce qu'il en sera. C'est à la fédération de nous dire également ce qu'il en sera. Mais l'essentiel est que le Bénin puisse être mis sur orbite par rapport à ce stade qui répond aux normes requises par la CAF et qui véritablement va faire la fierté de ceux qui auront la chance donc de voir jouer un match de cette envergure, là, une finale d'une compétition des clubs de la CAF sur ce stade, Général Mathieu Kérékou.
Après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2005, le stade de l'Amitié arbitrera notre rencontre de prestige.
Oui, Élisée, c'est tout heureux pour ce stade qui a fait la gloire du Bénin. On se rappelle qu'au cours de cette CAN 2005, les écureuils ont pu atteindre le stade des demi-finales, ce qui leur a ouvert la porte de la Coupe du Monde aux Pays-Bas dans le temps, avec l'épopée des
Zaza Kumoto
aussi, et puis Abou Maïga et consorts. Donc, on tire un coup de chapeau au comité exécutif qui a certainement fait le lobby pour que ce stade soit choisi.
Comme l'année dernière en Coupe CAF, ce sera au Maroc que la finale de la Ligue des Champions sera jouée, même si la grosse déception vient de la première Ligue des Champions féminines que le Royaume n'organisera pas.
Tout à fait, Élisée, le Maroc ne peut pas avoir à chaque fois le beurre et l'argent du beurre. Donc, dans ce genre de situation, il faut négocier, il faut arriver à des compromis, des consensus. Et visiblement, le Royaume chérifien voulait s'octroyer l'organisation de la Champions League africaine. Ce sera probablement à Casablanca le 17 juillet prochain. Et pour cela, justement, il y avait une candidature égyptienne en face. Il fallait peut-être proposer une contrepartie. Ce sera la Champions League féminine au pays des pharaons, sachant que le Maroc gardera l'organisation de la Coupe d'Afrique féminine 2022 qui aura lieu dans la région de l'Oriental et probablement du côté d'Oujda et Berkane. Quoi qu'il arrive, le Maroc sort grandi dans cette affaire de candidature pour l'organisation des grandes manifestations africaines, en attendant bien sûr d'autres challenges.
Le Maroc, qui fait partie des rares pays à faire la promotion du football féminin, pourra se contenter de la prochaine CAN de 2022 qu'il organise et dont le tirage au sort a eu lieu en Égypte. Amine, quand on se rappelle du report des différents tournois de football ou encore de handball, on pourra dire que le Royaume n'offre aucune garantie pour l'organisation de cette compétition.
Je dirais que le Maroc avait fait dans la prévention. Visiblement, ça n'avait pas été du goût de tout le monde qui croyait que le Royaume chérifien s'était défilé par rapport à ses responsabilités. Ce n'est pas le cas. D'autant plus que pour la CAN féminine, le Royaume aura déjà atteint l'immunité de passe en ce qui concerne la vaccination. Elle suit son train et elle devrait être à son summum vers la fin du mois de juin avec un nouveau lot de vaccins, notamment en provenance de Chine. Et ça permettrait de flexibiliser que ce soit les transports aériens, le tourisme, les secteurs des loisirs, mais également les secteurs de la restauration qui sont aujourd'hui en phase de restriction. Et ça offrirait le meilleur visage possible pour une CAN féminine organisée par le Maroc dans sa première édition.
Lawal, après le coup de la CAN senior de 2015 et celui de 2021 avec les U17, la CAF ne devrait-elle pas être intransigeante envers les Marocains?
Oui, c'est là toute la préoccupation, Élisée. Les Marocains ont déjà fait le coup une fois, c'était il y a 6 ans, et ils refont le coup en 2021,
à
une semaine du coup d'envoi, et ce qui oblige la CAF à suspendre la compétition, alors que des pays comme la Zambie ou la Tanzanie ont demandé l'organisation de cette compétition et miraculeusement la CAF n'en dit rien. Même dans le programme qu'elle a fait pour d'autres compétitions, on n'a pas senti cette compétition-là reportée ou annulée.
Donc on reviendra
forcément, Élisée. Mais c'est une aberration que la CAF fasse du deux poids, deux mesures, parce qu'on a vu la CAF punir, sanctionner des pays ici pour
le Zimbabwe,
des trucs pas aussi importants, on va le dire comme ça, et que le Maroc se paye la tête des férus du foot et qu'on mette entre parenthèses l'avenir des moins de 17 ans. Parce que, on dit moins de 17 ans, ceux qui devraient participer à cette CAN auront tous en 2023 non plus 17 ans, moins, mais ils auront dépassé l'âge-là.
Sacrifié
tout simplement, et les responsables de la CAF n'en disent rien. Le Maroc est coutumier du fait, mais on n'en dit rien. Et c'est pour, si c'est pour sanctionner d'autres pays, on est prêt à le faire. Et on se demande si ce n'est pas l'influence du Maroc qui fait peur aux autorités de la CAF. On se pose la question.
Alors, Ahmedine, si la CAF ne coûte-t-elle pas un risque en programmant cette compétition au Maroc?
Si, Élisée, la Confédération africaine de football court un très grand risque en programmant la CAN féminine au Maroc, car avec ces pays, on ne sait jamais. Et comme le dit l'adage, chat échaudé craint l'eau froide. Comme vous le savez, Élisée, le royaume chérifien nous a habitués à des désistements de dernière minute concernant l'organisation des compétitions sportives. Cela a été le cas en 2015. Le Maroc avait refusé d'accueillir la grande messe du football continental à cause de l'épidémie d'Ebola. Cette année également, la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui devait se dérouler au pays des Lions de l'Atlas du 13 au 31 mars dernier a été annulée à la dernière minute en raison de la pandémie du Covid-19, alors que certains pays avaient déjà effectué le déplacement. C'est pourquoi je pense très franchement que dédier le Maroc pour accueillir cette compétition sportive est un choix risqué et risqué.
Valdo, c'est le moment pour la CAF d'avoir un plan B ou, en cas de doute, la rétrocéder simplement, pourquoi pas au Cameroun ou à la Mauritanie.
Élisée, songer à un plan B serait beaucoup plus prudent pour ne pas revivre les scénarios qui a conduit carrément à l'annulation de l'édition précédente, puisque le Maroc a déjà renoncé à une Coupe d'Afrique des Nations chez les messieurs, rappelez-vous, de la CAN 2015. Donc, en cas de pépins liés surtout à la pandémie, cette option-là n'est pas du tout exclue, pourvu qu'on n'en arrive pas là. Quand on sait que le Cameroun, comme vous l'avez dit, Élisée, a abrité le championnat d'Afrique des Nations, quoique avec une gestion douteuse des tests de Covid, avec notamment la République démocratique du Congo qui a failli tourner au pire. Bref, je pense que la CAF devra prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour qu'elle ne se retrouve pas contrainte d'annuler une nouvelle fois cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout que le développement du football féminin sur les continents a un soutien sans faille de la Fédération internationale de football association de Gianni Infantino.
Précisons que les éliminatoires de la CAN féminine qui démarrent en juin prochain seront aussi qualificatives pour la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après cette réunion de Kigali, la CAF doit vite se pencher sur le lieu du match Sierra Leone-Bénin, qualificatif pour la CAN 2022 au Cameroun. En effet, la Fédération Sierra Leonaise de Football Association a proposé à l'instance fêtière de disputer ce match reporté de la dernière journée entre le 12, 13 et 14 juillet prochain au stade Siaka Steven de Freetown. Lawal, c'est quand même surprenant.
Plus que surprenant que le stade qui a été suspendu rétabli dans des conditions obscures, que ces mêmes Sierra Leonais qui ont fait tourner en bourrique tout un staff médical du Bénin et de la CAF, que ces mêmes Sierra Leonais reviennent après la visite du président de la CAF à Freetown et qu'ils disent que ce stade est à nouveau suspendu et qu'ils aient eu l'outrecuidance, le culot de revenir demander que l'on joue le match sur ce stade. Je crois que les Sierra Leonais
a d'ailleurs envoyé des émissaires pour inspecter la
pelouse. Et le stade a été inspecté, la pelouse a été inspectée, on a trouvé qu'il répondait le stade à rien, la pelouse était impraticable, et qu'il demande qu'on joue le match là, sur ce stade, c'est une aberration.
Apparemment, la CAF et la FIFA donnent tout.
Non, écoutez, il y a une chose qui n'est pas claire, qui n'est pas comprise. Les Sierra Leonais se payent la tête de la CAF, de la FIFA et de tout le monde, et ça ne dit rien, parce que regardez, les tests Covid truqués qu'ils ont fait, on n'en a rien dit. On a plus ou moins simplement reporté le match. On a enterré la décision qu'on a prise le 30 mars. Aujourd'hui, que les mêmes Sierra Leonais reviennent. Non, écoutez, il faudrait qu'on cesse avec ces pratiques-là d'un autre âge en Afrique. Et c'est en Afrique qu'on trouve ces bêtises-là. Il est temps que ça cesse. Et si la CAF arrivait à accepter que le match se joue sur ce stade-là, vous avez vu l'état piteux de la pelouse, que la CAF l'accepte, J'ai dit, ce serait vraiment un monde à l'envers, que ce soit comme ça, les 12, 13 et 14 prochains.
Merci Lawal. Valdo, pendant ce temps, l'Argentin Hector Cooper est le nouveau sélectionneur des Leopards de la RDC. Au même moment, Claude Makélélé dément avoir accepté un rôle d'ambassadeur. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa?
À Kinshasa, l'arrivée de l'Argentin Hector Cooper domine l'actualité puisque les tractations avec d'autres sélectionneurs n'ont pas abouti. Son profil fait l'unanimité, quoique ses finales perdues avec l'Égypte et Valence ne laissent pas indifférent les Congolais qui reconnaissent également l'option défensive qui caractérise l'homme. Attendu à Kinshasa d'ici fin mai afin de paraphrer son contrat, Hector Cooper avec la RDC, l'objectif est bien défini, qualifier les Léopards à la prochaine Coupe du Monde de football, chose qu'il a déjà réussi sur le continent. L'union avec les RDC semble bien promettre un véritable changement dans la gestion et le fonctionnement de la sélection congolaise. S'il faut revenir sur les Makélélé, l'homme, pour les avertis, ne semble pas vouloir de ses postes d'ambassadeur du football congolais sans qu'au préalable certaines choses ne soient définies. Certains pensent même que ce n'est pas un bon choix. Mieux serait d'avoir un ancien footballeur congolais ayant porté les maillots de Léopard de la RDC.
Sur le terrain Valdo, on jouait les quarts de finale aller des interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Les Sud-Africains de Kaizer Chiefs en roue libre grâce à leur carton à domicile 4-0 contre les Tanzaniens de Simba, pourtant impressionnant en phase de groupe.
Élisée, c'est ça les footballeurs, rien ne reste statique, tout est dynamique. À chaque étape, les réalités diffèrent. Les clubs tanzaniens avaient bien géré la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF en donnant du fil à retordre aux champions en titre, les nationales, et à l'AS Vita Club de Kinshasa pour terminer en tête de son groupe. Et là, c'est une autre phase qui démarre, celle à élimination directe en double confrontation. Simba passe complètement à côté de son match aller face aux Sud-Africains des Kaizer Chiefs avec cette lourde défaite de 4 buts à 0. Mais il faudra aux Sud-Africains de rester prudents et surtout concentrés sur leur adversaire qui reste intraitable à domicile et capable de marquer beaucoup de buts avec possibilité de refaire son retard malgré les 4 buts constatés. Bien sûr, en football, on le sait bien que rien n'est acquis tant que ce n'est pas encore complètement fini. Comme c'est le cas, il y a donc une manche retour à jouer entre Simba et Chiefs Élysée.
Amine, les deux représentants marocains, le Wydad et le Raja de Casablanca, ont ramené un nul prometteur de leur déplacement en attendant les matchs retour.
Des résultats globalement positifs pour les clubs marocains engagés dans les deux compétitions africaines. Le Wydad a ramené un nul plus que convaincant de son déplacement contre le Mouloudia d'Alger et dire que les Casablancais auraient pu l'emporter sans une erreur d'arbitrage manifeste de Black Tessema qui a refusé un but parfaitement valable à Walid Karti ou une frappe sur la barre de Hassouni. Une erreur en toute fin de rencontre a coûté la victoire aux Casablancais. Pour le Raja, l'équipe a dû ramer, notamment après une première période difficile en Coupe de la CAF face Orlando Pirates, mais un but de Ben Malongo a validé les efforts et la capacité des Verts et Blancs à se surpasser. Il va falloir valider ces deux résultats lors des matchs retour. Ce sera en Champions League samedi prochain, ou en Coupe de la CAF pour le Raja de Casablanca le lendemain.
Merci Amine. Il faut dire que les Égyptiens d'Al Ahly prennent une bonne option. Ok, les tenants du titre ont fait respecter leur statut, victoire 2-0 face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Belle opération aussi. C'est une petite surprise pour les Algériens du CL Berouizdad, 2-0 victoire face à l'Espérant de Tunis. Et puis nul, un but partout entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Casablanca. On revient vers vous à Médine. En Coupe de la CAF, le Djarab de Dakar battu à Garoua par le Coton Sport devra jouer gros à domicile au match retour.
Tout à fait Élisée, le Djarab qui s'est incliné face au Coton Sport de Garoua devra jouer gros à domicile lors du match retour. En effet, les Verts Blancs feront tout pour renverser la tendance au stade Ladior. Pourtant, les poulains de Cheikh Gueye avaient la possibilité de ramener un bon nul car ils ont tenu la dragée haute au Camerounais malgré leur infériorité numérique car le Djarab a perdu le défenseur central Koné qui a été expulsé à la 37e minute pour cumul de cartons. Mais les Sénégalais qui ont craqué à 2 minutes de la fin de la rencontre en encaissant un but
à 2 minutes de la fin, Élysée. Donc il y a eu beaucoup de regrets parce que malgré l'infériorité numérique, le draft s'est créé beaucoup d'occasions. Maintenant, il va falloir corriger tout cela pour repartir du bon pied, car au match retour, il faut non seulement remonter ses 1 but d'écart, mais également marquer un autre but pour pouvoir se qualifier. C'est une mission difficile, mais pas impossible pour les Sénégalais, Élysée.
Pour les autres matchs, belle opération des Algériens du LHS Kabylie, vainqueur 1-0 sur le terrain des Tunisiens du SPAS. Les Égyptiens de Pyramide ont assuré à domicile 4-1 face aux Nigériens d'Enimba. Les matchs retour sont prévus pour le week-end prochain. On termine cette émission par le basketball, l'Africa League qui se déroule actuellement à Kigali au Rwanda. Une compétition sur le modèle de la NBA aux États-Unis et qui a pour objectif de donner plus de visibilité au basketball africain. Faire connaître les équipes, les joueurs et les entraîneurs, bref, Amine Birouk, c'est la première fois que la NBA crée une compétition senior en dehors des États-Unis.
Je dirais que la NBA fait d'une pierre deux coups. Tout d'abord, elle permet aux talents africains d'émerger. Et ce sera l'occasion pour les scouts NBA de découvrir des joueurs susceptibles, peut-être de renforcer à moyen terme les franchises NBA, ou en tout cas de mettre un pied aux États-Unis et pourquoi pas après de s'épanouir. Et puis, ça permet à travers un processus de collaboration et de coopération au basketball africain d'émerger davantage au niveau de ces 12 équipes invitées à disputer cette première édition. Il faut juste rappeler que la formule était différente puisqu'en 2020, si le Covid n'avait pas eu lieu, on aurait eu différentes étapes. Là, c'est à travers une bulle à Kigali, mais le spectacle vaut la chandelle et nous verrons dans quelle mesure cette formule et cette compétition pourra se développer dans les années à venir avec des représentants des différentes zones du continent et notamment de la zone ouest africaine où en général il y a des talents qui s'exportent facilement en NBA.
Amédine Sy, belle entame des Rwandais de Patriot BBC qui ont dominé Rolémé, les Nigériens de Rivers Hoppers 83-60. Un match d'un très bon niveau.
Tout à fait, Élysée, ce match inaugural de la Basket African League a été d'un très grand niveau. En effet, les amateurs de la balle au panier se sont régalés à suivre cette rencontre qui n'a rien à envier à un match de la NBA. D'ailleurs, un ancien pensionnaire du championnat le plus relevé au monde, la NBA, a pris part à ce premier match inaugural, un match historique, car c'est la première fois que se déroule ce genre de compétition en Afrique. Il s'agit de l'ancien international nigérien, Ben Izzo, qui a eu à porter les couleurs de New Jersey, de Cleveland et de Toronto. Cet après-midi, ce dimanche, il a joué sous les couleurs des Rivers Hoppers du Nigeria, mais malheureusement, son équipe s'est inclinée face à une excellente formation des Patriotes du Rwanda qui ont bien démarré cette compétition qui se déroule chez eux. En tout cas, on est très bien parti pour assister à une très grande compétition, Élysée.
Merci Amédine. Toutes les informations relatives à cette compétition, tous les résultats, c'est aussi dans nos différentes éditions du journal et également sur notre site internet voafrique.com, nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Sporama qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. À lundi prochain. Au revoir.
Bienvenue à vous, chers auditeurs, VOA Afrique au cœur de la Basketball Africa League. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres sont diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pouvez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer. À vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires.